France Info.
La tête dans les étoiles avec les petits journalistes de France Info Junior. En partenariat avec Un jour une actu et unjourunactu.com, demain, une fusée Soyouz décolle du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, direction l'ISS, la station spatiale internationale à 400 km de la Terre. Le taxi spatial des Russes emmène 3 personnes à bord, un Russe, un Kazakh et un Danois. Mais chaque passager a une doublure en cas de problème de santé de dernière minute. Et la doublure du Danois, c'est un Français, le Français Thomas Pesquet. S'il ne part pas demain, son voyage à lui est programmé pour fin 2016 et ce sera le 10e Français à partir dans l'espace. C'est donc l'occasion de s'intéresser à la vie quotidienne à bord de la station spatiale qui tourne autour de la Terre à 28 000 km/h. Bonjour Jean-François Clairvoy.
Bonjour.
Vous avez volé vous-même dans l'espace à 3 reprises à bord des navettes américaines. Vous avez notamment dirigé une mission de réparation dans l'espace du télescope géant Hubble. Vous travaillez toujours pour l'ESA, la NASA européenne. Au micro France Info d'Estelle Faure, Augustin et Alfred. Et on commence avec toi Augustin.
Ceux qui sont là-haut, comment ils font? Il y a des réserves d'oxygène à l'infini ou comment ils font pour en reproduire?
Eh bien non, malheureusement, on trouve pas d'oxygène dans l'espace. Faut l'amener depuis le sol. Alors il y a ceux qui amènent l'oxygène sous forme de gaz comprimé, mais on peut aussi électrolyser, faire passer du courant électrique dans l'urine, purifier, et ça peut donner de l'oxygène. C'est ce qu'ont utilisé les Russes très longtemps dans la station Mir.
Alfred,
est-ce que les astronautes ils mangent que des aliments sous vide?
À peu près 2/3 de la nourriture est déshydratée, comme pour ceux qui font des randonnées qui veulent avoir un minimum de poids pour un maximum de nutrition. Mais il y a aussi des plats pré-cuisinés en sauce, il y a juste à chauffer, donc qui ne sont pas du tout préparés sous vide, mais stabilisés thermiquement sous vide.
Des plats de grand chef parfois?
Oui, oui, par exemple, il y a un grand chef britannique qui prépare des plats pour le Team Peak qui part en novembre cette année.
Augustin.
Comment ils font pour faire pousser de la salade dans l'espace?
Vous allez dans un supermarché aux États-Unis, vous avez des salades suspendues à des fils au plafond, sans terre, mais en étant arrosées régulièrement, vaporisées par des brumisateurs avec des nutriments, des minéraux, ça pousse.
Ça fait pas bizarre de dormir debout dans des sacs de couchage en flottant à moitié?
Alors, dans le sac de couchage, on ne flotte pas puisqu'il est assez étroit. Il est attaché par des tendeurs à ses quatre coins, donc le sac ne flotte pas non plus. Et il n'y a pas de position debout. Moi, je dormais souvent allongé au plafond face au sol, d'autres collègues sur le mur. Mais on peut très bien dans sa tête se dire qu'on est couché et allongé, quelle que soit la paroi de la cabine qu'on utilise.
Est-ce que parfois la station, il la nettoie?
C'est très important de faire le nettoyage régulièrement. Il y a un aspirateur à bord. On passe des chiffons et puis des sortes de scotch pour décoller la poussière des filtres. Et on passe l'aspirateur régulièrement, oui, pour enlever la poussière là où elle s'accumule dans les interstices entre les racks d'expérience.
Et les poussières, on en fait quoi, les déchets?
Les déchets sont accumulés dans des sacs poubelles. Et lorsqu'un vaisseau ravitailleur a fini d'être vidé de ses ressources, on le remplit des poubelles. Et au bout de quelques mois, on le détache de la station, sans personne à bord, et il brûle entièrement au-dessus du Pacifique Sud.
On ne jette rien dans l'espace?
Non, non, on contrôle maintenant. Ça fait plusieurs décennies qu'on ne jette plus les poubelles par la fenêtre, si je puis dire.
Alfred.
Comment ils font pour aller aux toilettes dans la station?
Grande question.
Alors, les toilettes sont un peu similaires à ceux qu'on a au sol, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de siège, et on remplace simplement la pesanteur apparente qui n'est plus là, qui est nulle, on la remplace par la succion. C'est-à-dire qu'on crée un léger vide dans le tuyau dans lequel on urine, qui va vers le réservoir d'urine, ou dans le petit réservoir sous le siège où sont aspirés les déchets solides qui sortent du corps humain. Et chaque astronaute, mettant des gants de chirurgien, après ferme le sac et puis le met dans un sac étanche, et donc pour pas que les odeurs ressortent. Voilà, on remplace la gravité par le vide en quelque sorte.
Ça bloque pas un peu des fois, ça, au début quand même? Non, faut s'habituer.
Ah, mais on teste le siège au sol avant, parce que ça fonctionne en général aussi sur Terre. Et quand on a pratiqué sur Terre, on s'habitue.
Est-ce qu'il y a des tensions entre les astronautes, vu qu'ils vivent tous dans un petit espace?
Et ils y passent six mois, un an même parfois.
Alors, sur les vols courts, il y a eu des tensions, parce qu'on faisait pas tellement attention à mettre dans un même équipage des personnes dont on s'était assuré que la personnalité était compatible. Mais pour les vols de longue durée, il y a un travail d'évaluation des personnalités, et on s'efforce de faire travailler ensemble et vivre ensemble sur la longue durée, c'est-à-dire plusieurs mois, six mois, des personnes qui ont démontré une compatibilité de personnalité. Et en plus, pendant l'entraînement avant la mission, on les envoie en expédition dans des milieux réellement extrêmes sur Terre. Ça peut être au fond de l'océan, ça peut être en Antarctique, ça peut être dans les lacs très froids du Canada par moins 40 degrés ou dans l'Utah l'été à par plus 40 degrés. En Europe, il y a des expéditions dans des grottes souterraines en Sardaigne où le stress est réel et ça apprend à l'équipage à mieux se connaître et à bien vérifier qu'ils s'entendent bien, suffisamment bien. Il faut dire que depuis 15 ans que la station spatiale est habitée en permanence, on n'a pas connu de conflit significatif au sein d'un équipage.
Augustin.
À part les expériences, est-ce qu'ils font des jeux ensemble ?
Alors, on peut jouer dans le temps libre, puisque dans les vols de longue durée, il y a quelques temps libres les week-ends. Et si vous tombez sur un collègue qui est ludique comme vous, moi je suis très joueur, j'ai inventé pas mal de jeux personnellement dans l'espace, eh bien on peut s'amuser, inventer des jeux comme les fléchettes de l'espace, ou jouer au ping-pong avec des checklists et des balles fabriquées avec du scotch roulé en boule. On peut s'amuser aussi à faire des jeux avec de l'eau. Et souvent les astronautes font des petites démonstrations pour des petits clips vidéo pédagogiques pour des écoles.
Alfred.
Est-ce qu'il y a du bruit dans la station ou c'est plutôt calme ?
Il y a du bruit dans la station par à-coups très fort, comme une grosse résonance lorsqu'un véhicule s'accoste. Mais sinon, en général, le seul bruit qu'on entend, c'est le ventilateur qui fait bouger l'air en permanence pour pas qu'on s'asphyxie dans notre propre gaz carbonique. Mais au bout d'un moment, on s'en rend plus compte. Et quelqu'un qui éteint le ventilateur surprend tout le monde parce que l'absence du bruit du ventilateur nous réveille en quelque sorte, ou nous surprend.
Augustin.
Est-ce qu'ils captent la télé, le téléphone ou Internet et est-ce qu'ils ont leur portable ?
Dans l'ISS aujourd'hui, les astronautes ont des tablettes et ils ont un logiciel de type Skype pour pouvoir composer n'importe quel numéro de téléphone au monde et puis faire des vidéoconférences avec leur famille. Donc aujourd'hui, oui, les astronautes surfent sur Internet et puis communiquent avec leur famille, avec leurs amis très facilement. Moi, ça m'est arrivé d'être appelé sur mon portable par un collègue qui était dans l'ISS. Il a démarré aux États-Unis, il a terminé, il était au-dessus de l'Europe.
Merci Jean-François Clairvoy d'être venu répondre au petit journaliste de France Info Junior. Et j'ajoute que vendredi dernier, la NASA a enfermé 6 personnes dans un dôme de 11 mètres par 6. Elles vont y rester pendant un an. L'objectif, c'est bien sûr de simuler un voyage vers Mars, puisque l'aller-retour prendrait 3 ans. Sur ce sujet, vos réponses aux questions de nos juniors, c'est le bonus sur franceinfo.fr dans la page France Info Junior.